pense que plus de fois qu'on ne le croit, il y a des questions de qu'est-ce qui doit être. Et c'est toute la force de l'hétérosexisme, la médecine dicte des choses. Je fais aussi référence dans le livre d'un ami gay qui, ayant nouvellement des douleurs anales lors des rapports sexuels, va voir un proctologue qui, au moment de l'examen proctologique, lui dit « Ah mais si vous avez mal, il faut faire l'amour normalement. » En fait, qu'est-ce que c'est faire l'amour normalement au fond? Et qu'est-ce que la médecine a à dire sur ça? Je ne pense rien. La médecine a à dire sur la souffrance, et parfois elle en inflige.
Le Lobby sur Radio Campus Paris.
Bonjour à tous, je suis Mal et vous écoutez Le Lobby, le podcast queer de Radio Campus Paris. L'autre jour, j'attendais mon ami devant sa fac de médecine. J'étais planté devant un bâtiment que je qualifierais de visuellement imposant par son style brutaliste, pour ne pas dire moche, répondant au nom de bâtiment Paul Broca. C'est alors qu'on m'a expliqué qu'il était le fondateur de l'anthropologie, qui, m'a-t-on dit, a fait de merveilleuses découvertes sur le cerveau humain, mais aussi avait la fâcheuse tendance à mesurer les crânes d'humains afin de déterminer les groupes d'humains qui étaient inférieurs aux autres, soutenant ainsi des thèses eugénistes et racistes. Et présenté comme ça, eh bien je me suis dit qu'avec le recul qu'on avait sur le sujet, on aurait peut-être eu envie d'éviter de mettre au grand jour ce monsieur, surtout dans un campus universitaire qui plus est de médecine. Mais qui suis-je après tout, si ce n'est qu'un odieux canceller? On me répondra même peut-être que le recul, on l'a, et que la médecine n'est plus du tout utilisée pour justifier des thèses racistes, ni sexistes d'ailleurs, et encore moins homophobes, et que c'est une institution universelle qui soigne tout le monde de la même façon. Alors si vous êtes convaincu de cela, eh bien je suis désolé, mais je vous prie de rester avec nous, car non, la médecine n'échappe pas au rapport de domination, et pour en parler, nous recevons Miguel Schema, militant et étudiant en médecine. Bienvenue Miguel.
Bonjour, merci de me recevoir.
Alors Miguel, vous êtes étudiant en médecine, créateur des comptes Instagram Personnes Racisées versus Grindr et Santé Politique, et on vous retrouve également sur le Bondy Blog. Et vous venez de publier votre premier essai « La santé est politique, la médecine soigne-t-elle vraiment tout le monde ?» aux éditions Belfond. Alors votre essai, il commence par une question très claire, qui pourtant cache tout un tas de tabous. Est-ce que la médecine soigne tout le monde ? L'occasion pour vous de développer les biais de domination raciste, classiste, hétérosexiste et misogyne de la médecine. Vous l'écrivez dans les premières pages, c'était d'abord difficile d'amener ces sujets dans votre esprit d'étudiant en médecine, tant tout porte à décorréler le social et le politique du champ médical. Vous écrivez « Pour moi, les questions sociales et politiques et mes études de médecine étaient deux choses séparées. Il ne m'était jamais venu à l'esprit d'utiliser dans le champ médical les outils théoriques et politiques apportés à la sociologie. » Et pourtant, on y est. Comment vous avez fait pour nourrir votre formation médicale par ces écrits de sciences sociales ?
Il y a eu certains moments de basculement. Et c'est vrai qu'au départ... En fait, j'étais assez politisé sur pas mal de questions. Je pouvais écrire des articles au Bondy Blog sur les questions de racisme dans le champ médiatique, par exemple, et d'appréhender comment il s'exprime, quelle est son histoire, etc. Et réviser mes cours sans me poser la question et sans même penser que, d'une part, je pouvais utiliser, comme je le dis dans le livre, ce que j'avais appris ailleurs, et même que des choses similaires existaient, en fait, et qu'il suffisait de les trouver. Et il y a eu des moments de bascule, notamment... Ça a été la lecture d'un cours en santé publique. J'étais en première année de médecine et il est question des patients dont la prise en charge de la douleur est compliquée. Donc des patients mutiques, dans le coma ou encore des très jeunes enfants, en tant que c'est compliqué de communiquer avec eux et donc de mesurer la douleur, de la comprendre, de la prendre en charge correctement. Quelques jours après, je tombe sur un article de Clic, du média Clic, qui aborde ce qu'on appelle le syndrome méditerranéen. Qui est tout sauf un syndrome et qui est cette croyance que les personnes maghrébines auraient une propension à exagérer leur douleur. Et en fait, je lis ça, je tombe un peu dénu parce que je me dis mais qu'est-ce que c'est tout ça. Et par ailleurs, je me dis mais comment c'est possible que ça ne soit pas mon cours de santé publique qui m'a appris l'existence de tels clichés et un article de Clic. Et ça a un peu questionné ma formation et aussi. Ça a été un moment où je me suis dit, mais en fait, pourquoi je ne me suis pas posé ces questions-là? Pourquoi la lecture de Franz Fanon, que je disais, qui est par ailleurs un psychiatre et un militant anticolonialiste, pourquoi ça ne m'est jamais venu à l'esprit d'avoir ce prisme-là sur mes études? Et après, ça a été le Covid, en fait. Le Covid, On s'en souvient pas, je pense que pour beaucoup ça fait longtemps, mais c'était un moment politique assez affreux. Et au fond, je me disais, on n'a rien appris de l'épidémie du VIH et du sida, en fait. On parlait de l'épidémie et des gens qui en souffraient comme si c'était des questions de responsabilité, au fond, et que chacun était responsable de sa santé et d'avoir les bonnes pratiques sans jamais se questionner sur quelles sont les populations les plus touchées, pourquoi le sont-elles, quelles sont les populations qui ont moins accès à la vaccination. Et voilà. Et ça a été des moments de bascule et qui ont fait naître et accélérer ma politisation sur la santé.
Covid qui a d'ailleurs exacerbé plein de réactions racistes dans les médias. Vous en parlez dans votre livre. On y reviendra. J'avais une question, peut-être qu'il est un peu tôt pour la poser, mais je me demandais quel genre d'accueil dans le domaine médical vous avez pu avoir quand vous annonciez la rédaction d'un essai qui parle de médecine et de domination ?
Bah précisément, je n'en parle pas. Après, pour pas mal de raisons, parce que je pense que c'est pas le lieu. Que par ailleurs, je suis étudiant en médecine et donc j'ai aussi je suis là pour apprendre. J'ai des choses à apprendre et au fond, ouais, je dois le dire. Par ailleurs, je ne sais pas la réaction, je n'ai pas encore eu de réaction bonne ou mauvaise. J'ai des proches, des amis, médecins, étudiants en médecine, qui m'en disent beaucoup de bien, mais après, c'est des amis. Et je ne sais pas ce que ça dit du champ médical.
C'est peut-être compliqué d'aborder ce genre de questions.
En tout cas, dans les faits, je ne l'aborde pas. Jamais. Jamais. Donc ça dit peut-être quelque chose, soit de la manière dont je perçois le champ, soit du champ lui-même. Mmh. Bon, des deux, quoi, en fait, au fond.
Alors, votre livre se base à la fois sur des écrits de penseureuses, on voit le nom de Pierre Bourdieu, Monique Wittig, Michel Foucault, entre autres, sur des études scientifiques menées en France et dans des pays étrangers, on y reviendra aussi, mais aussi des anecdotes personnelles sur le terrain, ce qui rend le propos tout de suite très concret, anecdotes lors de vos stages. Une qui m'a beaucoup plu, c'était, vous nous parlez d'un patient qui ne parlait pas français, frappé par un AVC, et qui avait fini par reproduire tous les gestes de l'examen clinique machinalement, sans pourtant rien y comprendre. Vous pouvez nous raconter cette histoire et nous dire ce qu'elle cache comme...
J'étais en service de neurologie vasculaire dans un hôpital parisien. La neurologie vasculaire, pour faire simple, hein, gros, c'est les services qui gèrent les AVC, pour faire simple. Et donc, on examine un patient qui a eu un AVC... et on fait un examen neurologique pour voir l'évolution, s'il y a une aggravation, s'il récupère de son déficit, etc. Et le patient, on est rentré dans la salle et il s'est directement mis à faire les gestes de l'examen neurologique. L'interne me dit, on l'a tellement fait l'examen clinique, on n'a même pas besoin de le répéter. Assez joyeuse que notre examen clinique soit rapide et que ce patient s'exécute sans même qu'on ait à lui demander. Moi, je me dis, mais c'est un peu fou parce que ce patient-là, en fait, on n'a jamais fait appel à l'interprétariat tout au long de mon stage, j'ai jamais vu. Et c'est un patient à qui on ne parle pas, au fond, qui doit se dire, mais qu'est-ce qu'on me demande de faire je pense qu'il ne savait pas pourquoi on lui demandait de faire ces gestes-là. C'est banal, hein. Par contre, pour les patients allophones, c'est-à-dire pour les patients qui n'ont pas une maîtrise du français, est-ce qu'on ne fasse pas appel à l'interprétariat ? Je l'ai vu, j'ai toujours vu, il y a quelques exceptions, mais au fond, on ne fait pas l'appel à l'interprétariat, même si c'est possible. Il y a des associations qui sont en partenariat avec les hôpitaux parisiens depuis les années 80 pour mettre à disposition des interprètes et donc pouvoir communiquer avec ces patients. Et il y a des patients, en fait, au fond, avec qui on ne communique pas. C'était assez vertigineux et déstabilisant de voir, alors même que quand on est étudiant en médecine, on ne cesse de nous dire « parle avec ton patient ». Si tu n'as pas compris, c'est que tu n'as pas fait ton interrogatoire comme il se faut. Tu ne peux comprendre ton examen clinique qu'à l'aune de l'interrogatoire, etc., etc. Et à juste titre, il faut parler avec son patient. D'une part, pour avoir les informations pour faire le diagnostic, mais d'autre part, pour savoir quelles sont ses craintes, quelles sont ses questions. Et au fond, pour ces patients allophones, on ne se pose jamais la question de ce qu'ils ont à nous dire, en fait, au fond. Et je l'ai vu dans ce stage-là, mais je l'ai vu tout le temps, quoi.
Et justement, cette anecdote, elle montre aussi qu'on peut très vite tomber dans des pratiques déshumanisantes, dont souvent, comme vous le dites, sont victimes les personnes qui ne parlent pas français. Alors on en parlait à l'instant, une précieuse source d'information a été les papiers scientifiques d'autres pays, notamment des États-Unis et du Royaume-Uni, parce qu'ils fournissent des données à travers le prisme racial. On se rend alors compte que la quasi-interdiction des statistiques ethniques en France empêche de comprendre la réalité que vivent les personnes non blanches. À quel point c'est un problème, ça, en médecine française ?
Je pense qu'au fond, comment dire ça sans généraliser, mais je ne sais pas dans quelle mesure c'est une question centrale et à laquelle se posent beaucoup de soignants. Je pense que c'est plus des questions que se posent des chercheurs en sciences sociales. Certains d'entre eux peuvent être des soignants, mais bon, c'est plus une question des sciences sociales. C'est assez compliqué, je dois dire, d'essayer d'appréhender la manière dont le racisme s'exprime dans la pratique médicale dans le champ français, parce qu'il y a, en fait, il y a peu de données, mais cela dit, il y a beaucoup de chercheurs et on trouve des solutions, à savoir classer les patients selon leur pays d'origine ou leur lieu de naissance, etc. etc. Et au fond, je pense que l'importance de l'utilisation des catégories ethno-raciales, c'est pas pour essentialiser ou penser à des entités figées comme ça, mais plutôt de voir comment les gens sont... l'identité sociale à laquelle ils sont renvoyés et qu'est-ce que ça veut dire en fait, quelles sont les lignes de partage et raciales en l'occurrence et qu'est-ce qu'elles engendrent dans la pratique clinique quotidienne quand il y a une question de médecine, mais au fond des discriminations raciales, voilà.
Et puis ce qui est paradoxal, c'est qu'effectivement on invoque volontiers au sujet de l'absence de statistiques ethniques, on invoque ce fameux universalisme républicain selon lequel tous les individus devraient être considérés de la même façon, peu importe leur couleur de peau, leur genre, etc. Mais finalement, on en revient quand même à traiter les personnes différemment, sans ces statistiques, comme si pour pallier à ce besoin de statistiques ethniques si inavouable et raciste, eh bien, on avait besoin d'en inventer, d'extrapoler des données qui se basent bien sûr sur des stéréotypes racistes. Comment on pourrait expliquer ce paradoxe ?
Je ne sais pas si c'est un paradoxe en tant que le racisme et la manière dont il se structure, c'est à la fois l'expression de préjugés, d'inégalité, de discrimination, mais aussi faire croire que celle-ci n'existe pas. Et faire croire que le souhait, à partir du moment où on a fait le souhait de ne pas être raciste, tout d'un coup, il n'y a plus de racisme, il ne s'exprime pas. Et au fond, c'est aussi se méprendre sur ce qu'est le racisme, à savoir de croire que c'est un processus conscient, une haine consciente. C'est être assez naïf sur ce qu'est le monde social et la manière dont on est agi par l'histoire. Alors l'histoire sociale, politique, sexiste, mais aussi l'histoire raciale et la manière dont ces préjugés sont nés dans un contexte bien précis, à savoir la colonisation, l'esclavage. Et tout ce que je retrace dans mon livre, au fond, on peut le retracer. Ce qui est intéressant, c'est que je lisais peut-être on va en parler, mais le livre de l'historienne Delphine Peretti-Courti qui s'appelle « Corps noir et médecin blanc », qui aborde comment, à l'époque de la colonisation et d'esclavage, la médecine s'était un peu donnée comme tâche de prouver l'infériorité des Noirs. Et elle allait chercher partout, donc Paul Broca en fait partie, de ces gens-là, la taille des cerveaux, la taille, même le nombre de sillons cérébrales, la taille du pénis, etc. etc. Certains préjugés nés à cette époque se trouvent encore aujourd'hui. Et certains, j'ai déjà entendu, j'ai déjà été confronté en tant que personne noire, des proches ont été confrontés, etc. Donc, je sais pas, je pense pas que ce soit un paradoxe. Tout cela fait système.
Donc, si on résume, la médecine, elle s'est imprégnée de ces stéréotypes, et au lieu de les regarder sous le prisme des sciences sociales, elle va plutôt les biologiser, voire les pathologiser. Ce qui impacte négativement la prise en charge des patients issus de minorités. Vous avez nous donner une idée de ce que sont les conséquences pour les patients racisés ?
Dans le livre, j'aborde... Il y a un chapitre sur le racisme et la manière dont il s'exprime, mais aussi un chapitre sur penser les catégories, qui sont deux chapitres séparés, même si on pouvait les penser ensemble, mais je pensais qu'il y a deux problèmes différents. bon, l'expression cliché, ne serait-ce que sur la douleur, par exemple. La douleur, on ne peut pas la mesurer. Et en tant que soignant, tout ce qu'on peut faire, c'est écouter notre patient. Pour les patients anglophones, encore faut-il les écouter. Et la douleur ne peut. La seule personne qui est à même de dire quel est le niveau de douleur, c'est le patient. Donc, dans la reconnaissance ou l'invalidation de la douleur, il n'y a que du social, à savoir est-ce qu'on croit notre patient ou est-ce qu'on ne le croit pas. Et ce duo disqualification-croyance, il se base sur des systèmes de domination. J'en ai pas parlé très très loin dans le livre, mais le genre en fait partie. Pour les patients racisés, donc les personnes maghrébines auraient une propension à exagérer leur douleur, et les patients noirs, c'est encore un cliché né dans la colonisation, auraient une résistance accrue à la douleur. Et donc ils ont un accès différencié aux médicaments qui réduisent la douleur. On a l'exemple par exemple de Naomi Muzanga qui en 2015, si je ne me trompe pas, a appelé le SAMU et a eu sa douleur qui a été minimisée, et l'interlocutrice au SAMU se moque d'elle et elle en est morte. Et en fait, penser les catégories, pour moi, il s'agissait plutôt c'était une vraie surprise dans mes études de voir qu'il y avait dans les études de médecine une utilisation un peu biologique des catégories raciales. Je prends un exemple assez simple, je ne sais pas s'il est simple, mais un exemple. Je révisais mon cours sur l'hypertension artérielle et sur sa prise en charge dans le collège de cardiologie, de médecine cardiovasculaire. Les collèges, ce sont les livres sur lesquels on se base pour le concours de l'internat. Et il y a un tableau qui parle de l'indication des médicaments selon la situation clinique, selon que notre patient qui est hypertendu est diabétique ou non, a une insuffisance cardiaque ou non, etc. etc. et il y a marqué sujet noir. Et il s'agissait pour moi dans cette partie de dire, en fait, faisons attention, qu'est-ce que ça veut dire noir ? Rien, si ce n'est une identité sociale, c'est-à-dire être noir, c'est subir la négrophobie, et au fond, ça s'arrête à là, c'est une définition sociale. Et au fond, tout ce que les sciences sociales ont produit depuis 30 ans est assez... le monde médical en est assez hermétique, et on trouve ce genre de problème dans les cursus, quoi.
Le lobby. Tous les vendredis à 14h en DAB+, sur Radio Campus Paris.
Tous ces clichés, la communauté LGBTQI+, n'en est pas épargnée. Des décennies après la dépsychiatrisation de l'homosexualité en 1992 et de la transidentité en 2016, le domaine de la santé suinte encore de ses anciens vices. Vous témoignez de discours naturalisants sur l'homosexualité, dans certains écrits de référence même, ainsi que dans des discours de certains médecins. Comment cette pathologisation, elle influence encore les pratiques médicales aujourd'hui ?
On peut parler par exemple de l'intersexuation qui est, pour prendre la définition de Loué Petit, qui est chercheuse et intersexe, qui dit que c'est la situation sociale d'invalidation de certains corps sexués en tant qu'ils ne correspondent pas au corps dit masculin et féminin. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il n'y a pas de pathologie, au fond. C'est des corps sexués qui sont dans la diversité, qui peuvent ou pas être liés à des situations, pour le coup, pathologiques qu'il s'agit de traiter. Et donc, ce qui m'a intéressé dans cela, c'est de savoir avec quelle catégorie on appréhende ces corps-là, et qu'est-ce qui est en jeu, au fond, dans la manière dont la médecine appréhende les personnes intersexes. Mais il s'agit aussi, par exemple, des personnes trans et je prends un exemple de témoignage de patients trans qui passent par la SOFECT, qui ont témoigné pour Mediapart, qui disent que leur psychiatre a dit vous êtes trans et du coup il faut coucher avec en gros il faut être hétérosexuel.
Oui, exactement. Je voulais faire ce parallèle justement sur ces questions de normalisation où dans nos transitions de genre, il faut encore se justifier d'être un vrai homme ou une vraie femme pour avoir accès aux soins. Par des arguments caricaturaux et surtout hétéros, parce que c'est vrai quoi, être trans et pédé, et puis quoi encore. Alors pour reprendre votre titre, est-ce que la médecine, elle normalise tout le monde ? Est-ce que c'est bien là sa mission aussi ?
C'est une question extrêmement complexe, mais je pense que plus de fois qu'on ne le croit, il y a des questions de qu'est-ce qui doit être ? que ça soit des corps sexués, que ça soit la sexualité, que ce soit avoir des enfants ou pas, etc., etc. Pas très loin même, au moment, par exemple, du mariage pour tous, moi je me rappelle le nombre de psychiatres interrogés et qui disaient que c'était la déchéance et que limite la colère de Dieu allait s'abattre sur nous, c'était assez fascinant. Et au fond, je pense que très souvent, et c'est toute la force de l'hétérosexisme, la médecine dicte des choses. Je fais aussi référence dans le livre d'un ami gay qui, ayant nouvellement des douleurs anales lors des rapports sexuels, va voir un proctologue qui, au moment de l'examen proctologique, lui dit ah mais si vous avez mal, il faut faire l'amour normalement. Mmh. En fait, qu'est-ce que c'est faire l'amour normalement au fond ? Et qu'est-ce que la médecine a à dire sur ça ? Je ne pense rien. La médecine a à dire sur la souffrance, et parfois elle en inflige malheureusement.
Mmh. Et c'est à ce moment dans la lecture de votre essai que j'ai pas pu m'empêcher de penser aux réponses de ces communautés face aux violences médicales. Alors on a vu des listes de soignants passer, donc des communautés qui sont organisées pour eh bien lister des soignants et soignantes racisés, ou bien qui acceptent de faire une ligature des trompes sans remettre en question toute la démarche outre mesure, et aussi des listes de soignants et soignantes safe pour les personnes LGBTQI+, notamment les personnes trans. Comment les institutions médicales elles se positionnent face à la mise en place de ces listes ? Je crois qu'on a pu entendre l'Ordre des médecins à ce sujet.
De fait, malheureusement, elle se positionne contre ces listes en tant qu'elle continue de croire que parce que tous les soignants ont fait le serment d'Hippocrate, ils soignent tout le monde de la même manière et ces listes ne font que porter atteinte à l'honneur des corps des soignants. Moi, je me rappelle, il y avait une grosse polémique autour de Globules Noirs qui était un collectif de médecins, un collectif de médecins, et il y avait des histoires de listing pour des médecins safe, en gros, qui étaient au fait des questions raciales. Ce qui est totalement fascinant, c'est que des patients minoritaires souffrent et s'organisent en gros pour prendre soin de leur santé, qu'ils soient trans, intersexes, racisés, ou même par exemple des patients allophones qui donnent c'est pas forcément en termes de liste, mais qui conseillent un médecin par exemple qui parle anglais. S'organisent et les différents corps, les différents ordres prennent ces organisations comme des attaques, ce qui est assez fou. Et je pense qu'il nous faut, nous soignants, écouter la peine en fait et comprendre que si ces listes existent, c'est parce qu'il y a une souffrance quelque part et au fond, s'attaquer aux souffrances plutôt que s'attaquer aux gens qui s'organisent pour leur santé.
Oui, ce qui est très dommage, c'est que ce soit interprété comme une attaque, alors que ça dénonce plutôt un rapport de pouvoir déséquilibré entre soignants, soignantes et patients, patientes.
Exactement.
Alors moi, je n'ai jamais mis les pieds dans un amphithéâtre de médecine, mais l'image que j'en ai, ça me fait plutôt penser à BHC. Et non, je ne parle pas de bilan hépatique complet, mais plutôt blanc, hétéro, cis, donc pas top niveau mixité sociale et diversité. En tant qu'étudiant, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la diversité des étudiants de médecine ?
Je pense qu'on serait... le monde social est puissant, et donc on trouve majoritairement les dominants dans ces filières d'études. Mais je pense qu'on serait surpris de voir qu'il peut y avoir une diversité assez relative, il faut le dire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, comment on pense, c'est ça aussi mon... quels sont nos schèmes de pensée et comment on perçoit le monde, et qu'on peut être minoritaire et voir le monde et voir les corps de nos patients à travers les catégories de la domination et au fond les regarder comme des BHC pour reprendre votre acronyme. De fait, il y a une reproduction sociale indéniable. Et on retrouvera les classes dominantes dans ces professions. Ça, c'est évident. Je pense qu'il y a une évolution qui est assez notable. Mais je pense que cette évolution des personnes ne va pas, malheureusement, avec une évolution des esprits. Mais pour faire une évolution des esprits, il faudrait nous former et politiser, en fait, notre formation.
Oui, pour changer l'institution, en fait, il va falloir plus que de la diversité, il va falloir vraiment peut-être un cursus plus adapté en sciences sociales.
Oui, clairement.
Vous le racontez aussi dans votre essai, c'est difficile de faire changer en tant que nouvelle génération. Je pense à cette anecdote où vous racontez l'histoire de deux internes qui ont été sanctionnés après avoir eu trop souvent recours au service d'interprétariat pour les patients allophones qui ne parlent pas français.
Comment trouver une solution ?
Comment trouver une solution, c'est ça. C'est...
Je dois dire que c'est une question qui m'était assez vertigineuse et j'ai choisi à dessein de ne pas l'aborder parce que déjà, je n'avais pas le temps. Et par ailleurs, je voulais plus faire un état des lieux. Il y a des collectifs qui s'organisent et j'ai confiance dans ce qu'ils ont fait par le passé, dans ce qu'ils continuent à faire. Mais je pense qu'il faut avoir... je pense que la solution, si je devais en donner une, c'est avoir une distance avec notre pratique et une sorte de réflexivité, au fond. Et il y avait une très belle phrase d'une chercheuse qui a écrit dans Prescrire et Proscrire, à propos de la GPA, et qui disait « Si les médecins sont requis par la chose, sont-ils des penseurs de la chose ?» Et je pense qu'on pourrait assez généraliser ça en disant « Est-ce que les médecins sont des penseurs de leur pratique ? Je ne le crois pas. Et si certains sont penseurs de leur pratique, quel type de penseurs sont-ils ? Progressistes ou conservateurs ? Je vous laisse répondre à la question. mais qu'est-ce que ce serait d'avoir, en fait, de produire des cliniciens penseurs de leur pratique, qui auraient une distance, qui se poseraient les questions sur les catégories qu'ils utilisent, sur ce qu'ils font, pourquoi font-ils ce qu'ils font, pourquoi disent-ils ce qu'ils disent, retracer la naissance des catégories qu'ils utilisent, des prismes, des discours. Et je pense que ça changerait radicalement... la médecine, ça serait une sorte de révolution de la médecine. Pensez, certains la débutent et j'espère que ça continuera.
Oui, penser une médecine plus inclusive finalement.
Oui.
Est-ce que vous avez des modèles qui vous inspirent à ce sujet, peut-être des militants, militantes ou des instituts peut-être?
Je dois dire que Priscille Sauvegrain, qui est sage-femme et sociologue, j'adore le travail. Estelle Card, François Fanon, bien évidemment. Je pense qu'il y a des gens qui mènent une lutte qui m'a beaucoup beaucoup apporté. Je peux citer aussi Didier Fassin. Et en fait, c'est que des médecins chercheurs qui me passionnent et qui m'aident et qui m'aident à me questionner au fond.
Et puis dans les amphis de médecine, dans les programmes de médecine, dites que ça commence quand même un petit peu à bouger, ou il y a de nouveaux cours qui sont mis en place pour justement penser cette médecine inclusive un peu tardivement. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu brièvement?
Pour revenir à Priscille Sauvegrain, qui depuis 2000, je ne saurais pas retracer l'année, mais il y a eu un donne des cours pour des étudiants en sixième année sur les biais raciaux. Cette sage-femme a beaucoup travaillé, par exemple, sur le racisme dans les maternités. Et il y a Laura Berlingo, qui est gynécologue, qui, à la Sorbonne Université, a créé un DU à destination à la fois des soignants, quels qu'ils soient, mais aussi pour les patients et les patientes, sur une santé sexuelle inclusive, une santé sexuelle et reproductive inclusive, et qu'est-ce que ce serait en fait ? Quels sont nos biais hétérosexistes, etc., etc. Donc des choses se font, j'ai pas pu les retracer comme il se doit dans ce livre, mais il y a des gens qui mènent la lutte en interne et qui essayent de produire un nouveau type de clinicien.
J'écris sur la terre entière, quand je te vois, je m'aperçois que ton ombre, c'est la mer qui s'échappe d'entre mes bras. Mais si l'on s'amuse un peu, toi, tu restes là à devenir amoureuse de ce que je ne suis pas. Pourquoi tu es là? Et pourquoi je suis loin? Il y a tant de choses à faire. J'écris sur la fin d'un monde quand je pense à toi et moi. Mais nous deux, c'est le temps qu'on perd un peu plus chaque fois. Malheureuse dans mes bras, mais à quoi bon faire la fête? Éprouver le manque qui me fait perdre la tête. Pas la peine de fuir, t'es ancré bien en moi. J'ai bien trop peur du vide, de la vie sans toi. Mais c'est ton choix et je le respecte. J'écris sur la fin d'un monde quand je pense à toi et moi. Mais t'as raison, faut qu'on file et qu'on ne se retourne pas. Même si j'ai pas les épaules pour fuir loin de tes lèvres, va falloir qu'on m'apprenne.
Merci beaucoup, Miguel Schéma. La santé politique, la médecine soigne-t-elle tout le monde ? C'est le titre de votre essai publié chez les éditions Belfond. Allez donc le lire, c'est passionnant. On retrouve aussi votre travail militant sur Instagram, à Personnes racisées versus Grindr et Santé politique. Toutes les informations sont en description de ce podcast. Et je vous rappelle que tous nos épisodes sont à écouter sur les applications de podcast et sur le site de Radio Campus Paris à la page de l'émission. À la semaine prochaine. Yeah.